Chapitre 17. Avant l'orage. Adrien est tendu depuis le milieu de l'après-midi. Ce troisième jour de fenaison semble interminable. Les deux tiers des andins étaient formés quand, soudain, la machine a lâché. Le ciel au-dessus des montagnes commence à prendre les nuances d'un gris de plus en plus foncé. La qualité du foin est parfaite. Une pluie d'orage, et il perdra de ses vertus. Adrien est nerveux, comme son chien, mais pour d'autres raisons. Bloom s'est éloigné. Ce n'est pas le moment de tourner autour de son maître. Il reste auprès d'Étoile, une bergère australienne pure race, aux yeux verrons. L'andaineuse a lâché, je m'en doutais. Il reste plus d'un hectare. Il va falloir mettre un coup de collier. Capucine, tu peux appeler Paul et Jeannot ? Karine et Clémence, chapeau, bonnes chaussures, sparadrap sur les mains. Vous suivez Rémi. Il va vous montrer comment faire. Moi, je commence à presser. Tout le monde s'exécute, sans un mot. On prévoit un panier avec de l'eau. Les râteaux sont saisis, brandis comme les fourches de la Révolution. Rémi leur montre comment ratisser l'herbe sèche pour l'amener en tas régulier. Il a vite appris à manier l'outil en bois pour chercher les résidus que le tracteur n'atteignait pas. Désormais, il faut effectuer à la main ce que la machine réalisait si bien, aligner l'andin au bon endroit pour qu'Adrien puisse presser sans encombre. Clémence regarde l'étendue du champ et se demande si elle y arrivera. Karine déclare qu'elle mourra avant la fin. Rémi ne leur laisse pas le temps de tergiverser. Il est déjà en action, torse nu, le dos en train de virer au rouge. Un chapeau quand même, pour ne pas tourner de l'œil. Les gestes des deux femmes sont hésitants, mais efficaces. Quand Capucine vient prêter main forte en compagnie des voisins, Rémi court en direction du bruit du tracteur, un champ plus bas, son râteau dans une main et l'autre sur son chapeau, tant le vent commence à souffler. Récupérer le refus de la presse et les enfourner au fur et à mesure pour en perdre le moins possible et ainsi pouvoir nourrir les chèvres 5 jours de plus l'hiver prochain. Il n'apprendra pas à presser, pas cette fois-ci. Il est trop urgent de finir. Un chauffeur expérimenté s'impose. Peut-être l'année prochaine. Sera-t-il encore là? Le contrat avec le SPIP ne prévoit rien en ce sens. Il n'est question que de refaire le point régulièrement pour décider de la suite à donner à sa réinsertion. Revenir pour le plaisir? À moins qu'il ne soit à nouveau derrière les barreaux, il n'est qu'en sursis. Qui sait? L'idée lui glace le sang malgré la chaleur de la journée. Il chasse rapidement cette pensée, ne focalise son attention que sur l'outil qui racle le sol. Il songe à Clémence qui doit déjà souffrir avec sa peau fine et ses muscles timides, à Karine qui doit agoniser mais sera fière d'avoir survécu, à ses parents qui seraient émus de le voir se démener pour finir le travail à temps, courir dans ce pré aussi libre que le vent, s'extirper peu à peu de l'enfer dans lequel il s'est jeté lui-même. Ils ont bien tenté de le mettre en garde quand il a rencontré cette Marlène. Il l'a trouvée superficielle, opportuniste, égoïste, sans oser le lui dire, essayant seulement de mettre en lumière certaines situations anormales dont Rémi n'avait pas conscience, pour le préserver de la chute vertigineuse qu'il redoutait. Mais il était déjà pris dans le tourbillon de l'aveuglement. Ils ont ensuite été présents quand ils l'ont vu décliner. Ils se sont fait une raison en acceptant l'idée qu'il faut parfois éprouver certaines souffrances pour s'ouvrir sur un nouveau chapitre. Comme le douloureux travail de la naissance qui permet à la femme de réaliser qu'elle devient mère. Rémi est en train de devenir lui-même. La prison a été sa salle d'accouchement. Il est venu renaître ici. Adrien est soucieux. Le temps manquera. Certes, ils auront peut-être tout pressé avant la pluie, mais encore, faut-il mettre la récolte à l'abri. À 2 tracteurs, il eût été plus facile d'avancer, mais les voisins agriculteurs sont dans la même urgence. Rémi est reparti pour finir le dernier champ avec les autres. Tant pis pour ce que la presse recrache. La terre le digérera, ou les lièvres, ou le vent. Quand Adrien commence à presser à l'autre bout de la prairie, ils sont 6 à finir de rassembler le foin. Les mains font mal, les bras, les dos, le souffle est court, on presse le pas, on met plus de puissance dans le manche, on se sourit, on s'encourage. Karine essaie de rire de tout, elle parle pour meubler, se changer les idées. Elle est arrivée à la limite de ses capacités physiques. Déjà, au-delà de ce qu'elle imaginait, motivée par l'énergie du groupe, l'urgence, la volonté des autres. Clémence travaille en silence. L'apparence de lenteur n'est qu'application. Elle se refuse à laisser le moindre brin derrière elle. Tout en s'activant, elle engrange dans ses tiroirs à souvenirs les nuances de vert, de jaune, de brun qui composent la matière, les bleus et gris dans le ciel quand elle s'autorise à lever le nez pour offrir un peu de répit à ses paumes. Elle étoffe sa palette de couleurs intérieures. Elle aime être là, malgré la douleur qui lui révèle chaque parcelle de son corps. Même s'il manque de force, le voilà utile. Cueillir des fruits, ramasser des légumes, chercher des œufs, tenir un râteau lui donne du sens, un sens perdu, les sens perdus. Et elle a faim de tant bouger. Dieu qu'elle a faim! Elle n'a plus en tête que la soupe d'ortie et l'énorme salade verte, celle de pommes de terre à l'huile de noix et les œufs durs, la mayonnaise qu'elle a appris à faire, le pain qui levait ce matin, qui a cuit, qui refroidit. Elle mangerait presque du foin. Le petit animal dans son estomac creuse désormais un gouffre. Alors elle boit de l'eau, beaucoup d'eau. Son t-shirt est mouillé. Elle n'avait pas transpiré depuis des années. Qui soignera ses mains? Capucine, sûrement, si elle a le temps. Clémence la trouve belle. Elle aime le couple qu'elle forme avec Adrien. Ils semblent tant se respecter. Elle n'a jamais connu une telle atmosphère et n'imaginait même pas cela possible. Elle qui ne connaissait que les colères, les injures, les coups. Peut-être qu'elle aussi aura un jour droit à l'amour. Un amour tout beau, tout doux, qui prend dans les bras et qui rassure. Un amour qui ne détruit pas, ou alors qui se brise avant de briser. Tous les andins sont constitués, juste à temps pour être dévorés par la presse qui avale le foin comme un animal vorace. Capucine aime le claquement de la machine, l'ingénieux mécanisme, pourtant rudimentaire, les petites bottes qui tombent à l'arrière au fur et à mesure. Adrien prie pour que rien ne lâche dans la dernière ligne droite. Il a changé deux fois les bobines de fil, en pensant à la machine à coudre de sa mère. Ce noueur capricieux s'était cassé l'année précédente en laissant 2 hectares derrière lui. Heureusement, les orages n'étaient pas au rendez-vous cette année-là. L'aide d'un voisin, le lendemain, lui avait permis d'épargner sa récolte. Pour l'instant, tout tient. Magnanime, le destin ne concentre pas toutes les calamités la même année. Paul et Jeannot sont repartis. Lui commençait à boiter, grimaçant en secret. Elle peinait à tenir la cadence. Ils n'ont plus 20 ans, mais répondent pourtant présents dès qu'on a besoin d'eux. Adorable voisin, le cœur sur la main, un couple exemplaire dans le hameau, sur lequel personne ne médit et qui règle les conflits de voisinage autour d'un verre partagé et d'une bonne tarte aux pommes. Ils reviendront pour le dîner. Karine est rentrée avec Capucine. Il fallait bien quelqu'un pour l'aider à dresser la table. Le tonnerre gronde sur la montagne et le ciel noircit à vue d'œil. Antichambre des ténèbres, les premiers éclairs au loin fendent les nuages comme un laser découperait du tissu. À l'opposé de l'horizon, le soleil se couche paisiblement. La lumière tourne le dos au néant, l'ignore prodigieusement. Et les petites bottes de foin vulnérables au milieu. Adrien a enclenché la première lente du tracteur et saute de la cabine pour aider Rémi qui charge à la hâte les bottes sur la remorque. Clémence est restée. Elle découvre aujourd'hui qu'elle n'est pas du genre à abandonner le navire. Elle se nourrit surtout de l'énergie folle qui se dégage de ce moment de nervosité partagée. Elle soulève péniblement chaque botte pour l'approcher de la trajectoire de la remorque, titube, manque tombée sous leur poids, pendant que Rémi en saisit une dans chaque main et trottine pour les lancer ensuite à 2 mètres de haut. Adrien s'est hissé sur la plateforme pour les ranger au fur et à mesure, gagner de la place, en charger un maximum par voyage, tout en guettant le mouvement du tracteur qui commence à dévier dans le sens de la pente. Il saute à terre, court vers la cabine, redresse le volant, redescend, recommence. Si Jeannot était resté, il aurait au moins pu rouler. « Clémence, viens par là !» Tu vas conduire.
Mais je ne sais pas faire, répond-elle affolée.
Il n'y a rien de sorcier, juste tenir le volant et rouler droit. On n'a pas le choix, faut accélérer. Envahie par un mélange bouillonnant de panique et d'excitation, elle s'installe sur le siège déchiré qui crache une vieille mousse usée. Elle, la petite Clémence, transparente aux yeux du monde et qui pèse à peine plus qu'une portière de ce tracteur, est aux commandes d'un convoi de plusieurs tonnes. Elle en aurait presque le vertige s'il ne fallait pas convoquer une extrême concentration. Elle doit assurer, on compte sur elle. Qui l'a fait jusque-là? Elle s'essuie les yeux avec le bas de son débardeur avant de regarder derrière l'engin les deux hommes solides qui s'activent sans réfléchir. Des brins de foin collés sur leur front en sueur, ils se chamaillent la puissance musculaire. Concours de virilité pour se donner du courage. Devant, derrière, dans les rétros sur les côtés, Clémence doit tout surveiller. Elle redresse légèrement le volant pour passer entre les deux rangées de bottes qui s'alignent à perte de vue, la langue entre les lèvres appliquée comme une petite fille qui colorie sans vouloir dépasser. Un échange de regards avec Adrien, il lève le pouce, satisfait. Pas autant qu'elle. Un aller-retour plus tard, après qu'on a mis à l'abri ce qui vient d'être chargé, le manège recommence. Il lui a montré comment accélérer. Elle hésite, finit par oser en apercevant le ciel de plus en plus menaçant. Le soleil s'est couché, le vent est encore chaud. Un premier orage est passé dans la vallée d'à côté. Un autre arrive. On distingue les trombes d'eau au fond du paysage. La pluie engloutit les montagnes. Il ne reste qu'une longue rangée de bottes. La remorque est presque remplie. Le nuage approche. Ils n'auront pas le temps d'un dernier voyage. Ils redoublent d'efforts et de puissance. Rémi grimace. Pourtant entraîné, son corps souffre. Il n'a jamais enchaîné autant d'épaules jetées. Il faut les lancer de plus en plus haut pour espérer voir partir le convoi plein à craquer. Planter solidement la fourche dans le cube de foin pressé. Le soulever, puis donner l'impulsion, les bras levés, pour qu'il se détache et vole vers Adrien qui est perché à au moins 3 mètres du sol, sur cette surface instable qui tangue comme une mer déchaînée au rythme des variations du terrain que les roues affrontent. « Je file mettre la remorque à l'abri, » lance-t-il à Rémi et Clémence. « Essayez de disposer les dernières bottes inclinées deux par deux, l'une contre l'autre, pour qu'elles soient le moins mouillées possible. Tant pis, on viendra les chercher demain. » On se retrouve à la maison. Bravo, vous avez été top. Je sais pas comment j'aurais fait sans vous. Les deux se lancent un regard complice avant de s'élancer vers leur objectif. Rémi les rapproche. Clémence les installe selon les indications. Les premières gouttes se font sentir, accompagnées maintenant d'un vent frais qui porte le grondement de plus en plus puissant du ciel. Il leur en reste une dizaine avant qu'un mur de pluie ne s'abatte sur eux. Rémi saisit la main de Clémence et l'entraîne vers l'abri à chevaux au bout du champ. Ils y arrivent hors d'haleine, trempés jusqu'aux os. Ils ont réussi. Clémence manque tombée. Elle a jeté tous ses efforts dans cette dernière course. Accrochée au bras de cet homme solide comme un drapeau à son mât, elle volait presque. Elle se pose sur le sol paillé dans un endroit à peu près sec. Il s'assoit à côté. « Tu n'as pas froid ?» Elle est brûlante et glacée. Elle secoue ses courts cheveux mouillés du bout des doigts et se transforme en petit hérisson fragile. Les bandages de ses mains sont devenus roses avec la pluie. Rémi lui saisit un poignet et commence à défaire le tissu. Des ampoules ouvertes apparaissent. Clémence tremble en découvrant le champ de bataille autour de sa ligne de vie. « J'ai une peau fragile. Je crois qu'il n'y a pas que la peau et en même temps, je te trouve très solide. » « T'as eu beaucoup de courage aujourd'hui, bravo !»« Toi aussi, » répond-elle pour détourner ce compliment dont elle n'a pas l'habitude. Faut-il rougir, sourire, regarder dans les yeux, les baisser? Faut-il prendre et savourer? Il souffle doucement sur la chair à vif pour l'anesthésier. Il faudra soigner quand l'averse sera passée et qu'ils auront pu rentrer. Se doucher, savonner, sécher, désinfecter, appliquer un baume et un nouveau bandage. Sera-t-elle encore capable d'ouvrir l'enveloppe et d'en déballer le contenu comme chaque soir? Elle l'espère. Clémence ferme les yeux et engrange dans ses souvenirs le ciel noir, le champ jaune, les bottes rangées deux par deux comme des couples amoureux qui restent debout malgré l'orage. Elle doit laisser une trace de ce qu'elle voit, de ce qu'elle surmonte. Je dois en parler au monde. Au diable les ampoules, les bandages et les lignes de vie abîmées. Certaines cicatrisations requièrent de la couleur.